18h32, c'est l'heure du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous êtes ce mardi, François, avec Gernot Rohr, grand spécialiste du foot allemand. Arnaud Herrmann, grand reporter à l'équipe. Et on attend aussi vos appels. N'hésitez pas, vous nous appelez au 39-21.
En rappelant bien sûr que vous allez suivre une soirée spéciale avec Lionel Rousseau à partir de 20h sur Europe 1, qui nous mènera peut-être au bout de la nuit et le match en intégralité avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir, mon cher Arnaud Herrmann.
Bonsoir François.
Arnaud Herrmann, grand spécialiste s'il en est du Paris Saint-Germain. Vous vous apprêtez d'ailleurs à publier aux éditions de l'Archipel 50 ans dans les secrets du PSG. Ce sera dans quelques jours, le 27 août. Vous travaillez aujourd'hui à l'équipe. Quand on vient dire, comme le disaient nos envoyés spéciaux, que le match de ce soir est peut-être l'un des matchs les plus importants de l'histoire du PSG, j'ai envie de vous dire que c'est un défi que le Qatar s'était lui-même imposé, et il est aux portes de ce défi ce soir.
Exactement. Je me souviens, Nasser Al-Khelaïfi était arrivé en 2011 au club, après l'avoir racheté en juin 2011. L'objectif, il avait donné, je crois, de gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans de mémoire. Alors, il y a un peu plus de 5 ans qui se sont écoulés depuis, mais ça reste l'objectif suprême pour les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions. Donc on va dire que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais été aussi près d'y arriver, puisque c'est la première fois qu'ils sont en demi-finale.
Alors, fût-ce dans une Coupe d'Europe un peu particulière, avec cette longue interruption, ces matchs sans public, ce Final 8, est-ce que ça restera malgré tout dans l'histoire comme une vraie Champions League, Arnaud Herrmann?
Oh bah oui, quand on voit le plateau, même s'il y avait des absents majeurs comme Liverpool, par exemple, le tenant du titre qui avait été éliminé en huitième de finale par l'Atlético Madrid, oui, ça reste quand vous avez le Bayern, Manchester City, le FC Barcelone qui sont quand même présents au Final 8, ça reste une compétition majeure et ça restera une Ligue des Champions. Alors après, quand on connaît l'histoire du Paris Saint-Germain, qui est très particulière, qui est faite de beaucoup de hauts, mais aussi de beaucoup de bas. Finalement, si ça devait être la bonne année pour le Paris Saint-Germain, ça ne serait pas totalement surprenant. Ce club est tellement particulier, il lui arrive tellement de choses, que si la consécration arrive en 2020, l'année de ses 50 ans, l'année du Covid, ou de la Covid, pardon, parce que maintenant on dit la Covid, l'année d'une Ligue des Champions un peu particulière, finalement, ça serait presque logique que ce soit lui qui l'emporte, finalement.
Oui, que ça s'inscrive dans cette histoire. Il nous a rejoint ce soir dans les grandes voies d'Europe 1 et nous sommes heureux de l'accueillir. C'est l'un des plus fins connaisseurs du football allemand. Bonsoir, Gernot Rohr.
Bonsoir à vous tous.
Merci d'être avec nous ce soir. Gernot, j'ai envie que vous expliquiez à nos éditeurs que Leipzig, c'est un modèle, une construction très particulière, portée par son actionnaire, bon, on va le citer, Red Bull, mais avec un projet très particulier et très singulier dans le foot.
Oui, absolument, oui. L'actionnaire s'appelle Dietrich Mateschitz, que je connais personnellement, pour avoir travaillé un petit peu pour l'académie de Red Bull Salzbourg, lorsque, il y a à peu près une quinzaine d'années, ils l'ont créé. Et j'ai pu participer un petit peu à leur mise en place. Donc, ils ont un concept qui est intéressant parce qu'ils comptent beaucoup sur les jeunes joueurs, sur les talents qui veulent favoriser et qui veulent ainsi amener au très haut niveau avec un staff de haut niveau aussi, puisqu'il y a eu Ralf Rangnick qui a fait un très gros travail à la fois à Leipzig, mais aussi dans d'autres clubs déjà, dans ce domaine-là. Et ils ont donc cette philosophie du football qui est de compter sur les jeunes, de les valoriser. On l'a vu là avec Timo Werner qui est parti pour une somme énorme à Chelsea et qui permet quand même à cette équipe de rester à un bon niveau parce qu'il y a suffisamment d'autres jeunes joueurs qui sont là pour tenir le niveau. Bien sûr, ils ne sont pas très aimés en Allemagne parce que beaucoup de choses ont été faites au début, notamment avec de l'argent. Mais ce sont des investissements qui finalement profitent à toute une ville, à toute une région. On s'en souvient que Leipzig, en 1987, a déjà fait une demi-finale de la Coupe d'Europe contre les Girondins de Bordeaux. Et j'y étais, donc
club
je peux vous dire
cher,
qu'il y a,
oui.
Il y a une passion énorme dans cette région. À l'époque, il y avait 100 000 spectateurs dans le Zentralstadion de Leipzig. C'était Lokomotive Leipzig, bien sûr, à l'époque. Et puis, ils ont fondé ce club qui, il y a une dizaine d'années, est en 5e, 6e division. Et petit à petit, ils ont grimpé jusque-là. Et l'ambition de Red Bull et de Mateschitz, c'est c'est carrément de gagner la Champions League un jour.
Alors, ce qui est intéressant, Arnaud Hermant, c'est qu'on est dans l'anti-modèle du PSG. Leipzig, ce n'est pas de stars, c'est des jeunes pas connus qu'on va faire monter, qu'on va faire jouer collectivement. Et quand on regarde ce qu'est la stratégie de l'actionnaire du Paris Saint-Germain, c'est totalement l'inverse.
Oui, alors, plus ou moins, François, je dirais, parce qu'au départ, toujours pareil, hein, dans les grandes annonces au moment de l'arrivée du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi disait que l'ambition était de trouver le nouveau Messi.
Oui, le Messi d'Île-de-France, oui.
Voilà, de former ou de trouver le nouveau Messi. Bon, ça n'a pas été encore le cas, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le club a totalement un petit peu réorienté sa politique, en sachant qu'il a besoin de former des jeunes, ne serait-ce que pour équilibrer ses comptes en fin de saison, de façon à couvrir les salaires et les investissements colossaux réalisés pour attirer Neymar et Mbappé. Donc les jeunes lui servent à ça, mais il n'a pas encore la politique effectivement de Leipzig ou d'autres clubs en Europe qui est de former des jeunes pour les faire grandir avec l'équipe première. Au Paris Saint-Germain, combien d'exemples de joueurs talentueux qui vont finalement éclore ailleurs qu'au Paris Saint-Germain.
Dont un demain avec le Bayern de Munich, qui ne sait
comment. Par exemple, ouais. Bien sûr, qui ne sait comment. Même Christopher Nkunku, même si c'est un niveau en dessous, qui va normalement être titulaire ce soir pour Leipzig face au PSG. Voilà, Dembélé à Lyon, pour ne citer que. Les exemples sont multiples, mais il est évident qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des antithèses un peu. Le PSG, c'est quelque chose de clinquant, c'est 650 millions de budget, c'est Neymar, une star mondiale, c'est Mbappé, peut-être le plus grand footballeur français de l'histoire, s'il confirme. Donc oui, on est totalement dans un autre modèle, mais aussi parce que le Paris Saint-Germain du Qatar voulait aller vite, voulait gagner vite et réussir vite. Donc tout a été fait.
Alors
très
que Leipzig, on l'a vu, il y a une stratégie à long terme. Il y a en plus Gernot Rohr, un beau face-à-face ce soir entre Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, et Monsieur Nagelsmann, le jeune entraîneur de Leipzig. On parlait d'une jeune équipe, elle a 23 ans d'âge moyen, c'est la plus jeune équipe de ce tournoi. Et Nagelsmann, lui, il a été entraîneur à l'âge de 28 ans, sans avoir quasiment été joueur, mais en ayant une forme de mentor qui s'appelle Tuchel, Gernot Rohr.
Oui, tout à fait. Et là, c'était à l'époque, il y a une dizaine d'années, à Augsbourg, puisqu'il était le coach de Nagelsmann, Thomas Tuchel, à ce moment-là. Et c'est lui qui lui a dit, comme tu es souvent blessé, il était un petit peu tracassé par beaucoup de blessures, il faudrait peut-être que tu essaies de faire entraîneur. Donc il a suivi son conseil, et il a fait très tôt les stages d'entraîneur, le Fußballlehrer, comme on dit en Allemagne, et il a grimpé en passant par Hoffenheim notamment, jusqu'au très haut niveau. Et voilà, c'est une belle histoire. Même lui, il est très jeune, l'équipe est jeune, lui aussi est très jeune. Et ça colle. Et voilà, c'est quand même une surprise que déjà cette année, en plus avec le départ de Timo Werner, qu'ils arrivent à ce niveau-là. Et avec le match qu'ils ont fait contre l'Atlético, c'était formidable. Et voilà, donc ils n'ont rien à perdre. Ça sera un match ouvert ce soir. Hein. Ils pressent très haut, ils vont les chercher, ils ne vont pas avoir peur. À mon avis, ils vont rester fidèles à leur philosophie qui est de presser très haut, même contre une grande équipe qui est favorite, évidemment, comme le Paris Saint-Germain.
Comme le Paris Saint-Germain. Alors, Arnaud Hermant, Gernot Rohr, allez, on y est déjà. C'est dans 2h30, hein, mais voilà, dans les têtes, on y est. Merci à Christophe Pierrot, notre réalisateur, qui nous fait rêver avec cette musique de la Ligue des Champions. Restez bien à l'écoute tous les deux, nous avons des appels au 39-21 et on va essayer de faire un petit jeu de questions-réponses avec nos auditeurs juste après la pause.
Europe 1. 18h42, le débat des grandes voix se poursuit dans votre grand journal d'histoire sur Europe 1 avec vous, François Clos et vos invités, Arnaud Hermant, grand reporter à l'équipe, Gernot Rohr, grand spécialiste du foot allemand. Et vos appels, appelez-nous, allez-y, 39-21.
Et il y a beaucoup d'appels hein, quand on fait un débat sur le foot, ça réagit au standard. Nous avons notamment Alain qui nous appelle, je vois du 78, vous êtes donc dans les Yvelines, Alain ?
Oui, je vous appelle de Saint-Germain-en-Laye, bonsoir.
Ah, vous n'êtes pas loin du Paris Saint-Germain donc.
Absolument.
Alors Gernot Rohr et Arnaud Hermant sont là pour vous, Alain, allez-y.
Alors j'ai une question de tactique, peut-être plus pour Gernot.
Tuchel, bon tactique, Arnaud Hermant aussi.
Titulariser ses quatre fantastiques ou bien renforcer son milieu et jouer en 4-3-3 sans Icardi
pour résister à ce pressing très haut que Leipzig prodigue généralement dans ses matchs. Gernot Rohr.
Oui, je pense que Paris doit être fidèle à ses qualités, c'est-à-dire je jouerai quand même avec ces quatre grands joueurs sur le plan offensif qui peuvent se trouver, car il y a certainement des espaces dans le dos de cette défense qui est bien remontée, même s'ils sont à trois derrière. On sait qu'il y a Upamecano, il y a Klostermann, il y a Halstenberg, donc il y a quand même une défense solide dans l'axe. Mais ils n'ont pas la vitesse que, par exemple, les défenseurs du Bayern, qui sont tous des sprinters derrière. Et je pense que dans le dos de ces garçons, il y a des coups à jouer. Surtout si Leipzig, comme ils ont l'habitude, joue très haut et presse déjà dans le camp adverse. Donc, moi, je ferai ça. Maintenant, je ne connais pas le plan de Thomas Tuchel. S'il est audacieux, il fait ça. S'il est un peu plus prudent, il attend et il peut mettre ça aussi en cours de
En
match.
cours de match, on l'a vu contre Atlanta, ça peut basculer également. Votre
A
sentiment à vous,
priori,
Arnaud
François,
Herman?
excusez-moi. Non, a priori, oui, je me permettais de vous interrompre. A priori, il va jouer à 3 au milieu et il va sortir Icardi. Ce serait
Voilà.
la tendance des dernières minutes parce que par rapport à tous les arguments avancés par Garnaut, qui sont évidemment très justes et qui sont bien plus fins que les miens sur
Mais non, mais
Leipzig,
non.
il y a un argument qui quand même prévaut aussi, c'est la lenteur et ce qu'a montré Icardi ces derniers temps. Donc,
Oui,
à part
aussi.
un point de fixation, il ne va pas servir forcément à grand-chose s'il faut prendre de la profondeur et aller très vite avec le ballon.
Nous avons Pierre qui nous appelle du département de la Vendée. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Vous pouvez poser la question aux deux grands spécialistes que nous avons avec nous, l'un du foot allemand, Gernot Rohr, l'autre du PSG, Arnaud Herman. On vous écoute, Pierre.
D'accord, très bien. Alors moi, pour ce soir, je ne sais pas trop, enfin, vous donnerez votre avis, je voyais plutôt un 3-1 ou 3-2 pour Paris, parce que je vois Paris subir beaucoup de pression de la part du milieu de Leipzig dans leur configuration habituelle en 3-4-3, mais je pense que Paris peut faire très mal en attaque, notamment si la ligne Di Maria, Neymar et Mbappé, de par leur vitesse, parce que Upamecano, je vois mal défendre sur trois joueurs à la fois. Donc,
Alors, est-ce que ce 3-1 ou 3-2 vu par Pierre, ça vous paraît crédible, Gernot Rohr?
Oui, tout à fait. Moi, je pense aussi que Paris peut marquer plusieurs buts contre cette défense qui n'est pas à comparer, par exemple, avec celle du Bayern. Ça peut être un résultat. Ouais, moi aussi, j'ai tendance à dire 3-1 pour le Paris Saint-Germain ce soir.
Ben bravo Pierre, vous êtes sur la même ligne que Gernot Rohr. Arnaud Herman, j'avais une question à vous poser sur le cas Navas et sur l'histoire des gardiens du PSG. Est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction des gardiens quand on a vu Buffon, quand on a vu le cas Sirigu, Trapp? Aujourd'hui, on va avoir un deuxième gardien. C'est pas n'importe qui. Il a été à Séville, il a gagné une Ligue Europa, mais néanmoins, il n'a joué que 9 matchs. Est-ce que ça risque pas d'être le talon d'Achille du PSG ce soir?
Ah bah si, si, c'est la tuile, hein, l'absence de Keylor Navas, c'est évident. Le Paris Saint-Germain a mis du temps et avait enfin trouvé un gardien de standing international, vraiment de très haut niveau, avec une expérience énorme. Hein. Navas, c'est trois Ligues des Champions gagnées en tant que titulaire avec le Real Madrid. Donc son absence peut compter effectivement de manière prégnante ce soir pour le Paris Saint-Germain. Parce que Rico, alors et vous l'avez dit, François, il a un peu d'expérience, mais moi, je l'ai vu jouer cette saison. Il n'est pas non plus toujours exceptionnel. On se souvient du match contre Bordeaux où il avait fait des parades superbes. Il avait fait aussi deux bourdes, dont une en relance. Et si le Paris Saint-Germain ne le garde pas la saison prochaine, ce qui était le cas avant cet été, c'était ce qui était prévu, ça veut dire aussi qu'il considère peut-être qu'il n'est pas l'homme de la situation, ou c'est pas la doublure idéale pour Navas. Donc
Mais comment vous
l'absence de Navas,
expliquez,
c'est.
Arnaud, dans ce club qui prévoit tout, qui veut tout, d'avoir aussi mal géré les gardiens depuis plusieurs saisons?
Alors, ils ont géré, il y a plusieurs dossiers qu'ils n'ont pas bien gérés. François, il y a le dossier des gardiens, vous l'avez dit, il y a le dossier aussi de la succession de Thiago Motta, et puis il y a aussi le dossier des latéraux. Hein. Même si avec Bernat, il semble avoir trouvé quelqu'un de fiable, même si un petit peu fragile physiquement, le poste de latéral droit reste un petit peu vacant. Meunier, c'était coussi coussa. Là, ils sont obligés de dépêcher un central à droite, c'est Kerrer. Donc c'est un club qui, effectivement, peut paraître un peu de l'extérieur comme une énorme machine, mais il y a quand même pas mal de
Oui,
dysfonctionnements
c'est
internes.
assez étonnant, oui.
Il y a les relations directeur sportif-entraîneur qui ne sont pas toujours très fluides. On se souvient à Enrique chez Tuchel, c'était pas l'amour fou. Il y a eu quand même beaucoup de changements de directeur sportif aussi. Leonardo, après ils ont trouvé personne. Olivier Létang avait été promu. Antero Henrique, il a fait 2 ans, il est reparti. Leonardo est revenu. Donc ça tâtonne effectivement sur le poste de gardien. Moi, je pense qu'ils ont fait une erreur, c'était de mettre en concurrence Sirigu et Trapp il y a quelques années, parce que Sirigu n'était peut-être pas du, évidemment, il n'avait pas la renommée de Buffon, mais il était plutôt performant. Et depuis Sirigu, il a fallu attendre 5 saisons ou 4 saisons et Navas pour enfin trouver un gardien qui soit régulier dans la performance. Alors évidemment, il n'était pas aussi fort que Navas, Sirigu, mais il était quand même pas si mauvais que ça. Donc après, quand vous mettez le paquet, vous mettez 400 millions d'euros sur 2 attaquants, c'est sûr, bah oui, tout PSG que vous voilà, êtes, il vous en reste un peu moins derrière pour investir.
Plus la malchance pour ce qui concerne la blessure de Navas lors du tour précédent. Ganotran, je voulais vous entendre un petit peu sur comment l'Allemagne voit cette équipe de Leipzig. Elle n'est pas très très populaire, je crois, dans la Bundesliga. Et comment l'Allemagne voit Thomas Tuchel?
Oui, alors elle n'est pas très populaire pour la simple raison que c'est Red Bull qui vient avec son argent, qui crée un club, il n'y a pas de tradition. Le cœur appartenait plus au Lokomotiv de Leipzig ou au VfB Leipzig, les deux autres clubs, qu'à cette nouvelle création. Donc il faut du temps. Le PSG aussi a mis du temps pour se faire aimer. Il n'y a pas il y avait pas de palmarès, il y avait pas de, tout est à créer et voilà, et avec de l'argent au début, donc c'est pas forcément.
Oui, c'est pas comme ça qu'on gagne les cœurs tout de suite, et ça a été le problème du PSG. Très rapidement, Tuchel, il nous reste 10 secondes, Garnotra.
Et Tuchel est aperçu quand même comme un super coach. Tout le monde l'admire avec ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain.
Ce qu'il a fait à Dortmund avec le PSG, on vous entendrait mieux, Gernot Rohr, ce soir. Il sera dans l'émission spéciale à partir de 20h. Merci à tous les deux. Gernot, qu'on retrouve donc sur Europe 1, et Arnaud Herrmann, que vous lirez bientôt dans 50 ans dans les secrets du PSG chez Archipel, sorti le 27 août.